Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Ce soir, le titre de mon message est « La nature du courage ». La nature du courage. Je crois que nous avons besoin, dans la vie chrétienne, de courage. Je crois qu'il faut du courage pour suivre le Seigneur Jésus en 2005, au Québec. Je crois qu'il faut du courage pour s'approcher de Dieu. Je crois qu'il faut du courage pour servir Dieu. Je crois qu'il faut du courage pour s'abandonner à Dieu. On parle souvent du cœur, on parle souvent de l'importance du cœur. La Bible nous parle beaucoup de l'importance du cœur. La Bible nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Mais le mot « courage » et le mot « cœur » ont la même racine latine. Et j'aimerais vous parler ce soir de l'importance du courage. J'aimerais vous parler ce soir de la nature du courage. Il faut du courage pour se lever pour Dieu. Il faut du courage pour servir Dieu. Il faut du courage pour avancer pour Dieu. Il faut du courage pour reconnaître notre besoin de Dieu. Il faut du courage pour revenir à Dieu. Il faut du courage pour se repentir. Il faut du courage pour confesser notre besoin de Dieu. Il faut du courage pour confesser nos péchés, nos manquements, nos faiblesses. Il faut du courage pour s'humilier devant Dieu. Il faut du courage pour parler de Dieu. Il faut du courage cette semaine pour inviter quelqu'un vendredi soir prochain à Upper Ground. Ça prend une petite dose de courage pour se booster puis y aller. Il faut du courage dans la vie chrétienne. Et à cet effet, l'apôtre Paul a dit à Timothée, et le verset va apparaître tout de suite à l'écran, sur la première page, « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. » Et il y a un tout petit contexte à ce verset. Un tout petit contexte bien, bien, bien simple. Et il y a un homme qui a donné sa vie pour servir Dieu. Et il y a un homme qui est ici dans le deuxième épître de Timothée qui s'appelle Paul, qui vient de vivre une expérience qui lui a demandé énormément de courage. Ce n'est pas juste un homme qui parle comme ça en l'air légèrement et qui dit « Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais on a reçu un esprit de courage. » Ce n'est pas un homme qui parle en l'air et qui ne vit pas qu'est-ce qu'il dit. C'est un homme qui avait une vie de courage. C'est un homme qui, peu de temps avant, était dans une cellule, dans le plus grand stade de l'Empire romain. Il avait été convoqué à comparaître devant l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant de l'Empire de l'époque, c'est lui qui avait fait appel à aller devant l'empereur de Rome à l'époque. Et alors que l'histoire nous dit, les historiens nous disent qu'il était dans une cellule, et j'ai vécu ça, moi j'ai été dans un stade comme ça en France, un stade de martyrs chrétiens, et j'ai vécu c'est quoi, juste tenir dans une petite cellule, puis quelqu'un m'expliquait toute la torture des chrétiens quand ils allaient dans le stade et qu'ils étaient livrés. L'apôtre Paul a vécu c'est quoi, de voir les gladiateurs, de voir littéralement les fauves derrière les barreaux. C'est pas juste un film de gladiateur, puis finalement, le lion est dressé, puis il est bien fait, dans le fond, il fait juste ronronner pendant qu'il se bat avec toi. Puis si le super acteur, il se fait un petit peu trop mort, finalement, il va se plaindre à son avocat. Non, non, this is the real thing. Ça, c'est la vraie vie, là. Ils ronronnent pas les lions, ils mangent. C'est des vrais fauves. Penses-tu qu'il faut une dose de courage pour faire ça, mon ami? L'apôtre Paul se tient là, et finalement, la foule est là, on parle d'à peu près 50 000 personnes qui eurent l'apôtre Paul. Et cet homme-là, par amour pour Christ, la Bible dit, il l'a tellement bien dit lui-même, l'amour de Christ me presse à parler de lui. Ça, c'est plus que d'inviter quelqu'un à un concert d'Upper Ground, ça, mon ami. Ça, c'est 50 000 personnes qui veulent un show. Ils veulent voir les lions te dévorer. C'est l'empereur du plus grand empire de l'époque. Ça fait la une de toute l'actualité de l'époque. Et finalement, les historiens nous disent, un petit homme, hallelujah, pas de cheveux, hallelujah, les genoux croches un peu, rempli du Saint-Esprit, qui s'est tenu devant l'empereur et qui a commencé à prêcher l'Évangile, commencé à prêcher Jésus-Christ, mon ami. Les lions sont là. Et finalement, à la fin, l'empereur donne son verdict, il met son pouce comme ça. Et s'il fait ça, comme tu as vu des films d'Astérix, c'est la vraie affaire, c'est vraiment comme ça que ça se passe. S'il fait somme, on ouvre les grilles, les fauves se jettent sur l'apôtre Paul et l'apôtre Paul est dévoré, ou bien il lève son pouce comme ça et l'histoire nous dit que finalement l'empereur a été touché de ce que l'apôtre Paul a dit, il a levé son pouce, l'apôtre Paul a levé ses bras, puis finalement ils l'ont libéré et là il écrit une lettre à Timothée. Il dit dans ma première apparition, j'ai une parente une première fois dans le stade, il y a même des gens qui ont témoigné contre moi. Puis là, il sait qu'il va recomparaître une autre fois dans les mêmes circonstances. Et l'histoire nous dit que c'est fini pour lui. Même l'apôtre Paul a été révélé par le Saint-Esprit. Il sait que c'est fini. L'histoire nous dit qu'il a été décapité. Plusieurs croient qu'il a été décapité. Et il sait qu'il va recomparaître une autre fois. Et c'est pas un homme découragé. C'est pas un homme abattu, c'est pas un homme loser, c'est pas un homme qui est dans la peur. Peut-être qu'il y a eu des moments difficiles, peut-être qu'il y a eu des moments où il était découragé, mais c'est un homme au bout de tout cela, il écrit une lettre à Timothée. Laisse-moi te dire, il y a toute une vie en arrière de qu'est-ce qu'on vient de lire ensemble. Il y a toute une vie en arrière d'une petite phrase qu'on vient de lire. Il y a un homme qui sait de quoi qu'il parle, un homme qui parle plus tôt dans ses écrits, qu'il a été dans des veilles, il a été plusieurs fois dans des naufrages de bateau, battu à mort, flagellé, laissé pour mort. Même une fois, il dit qu'il est venu tout près de l'abîme. Il était dans une espèce de coma tellement qu'on l'avait battu, rué, coup. C'est un homme qui sait qu'est-ce qu'il dit, alors qu'il écrit à Timothée, son fils dans la foi, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit de cœur, un esprit de peur, pardon, un esprit d'abattement, mais un esprit de force et d'amour. Et un puissant, vaillant, guerrier, héros de la foi, qui se lève pour conquérir la terre promise, rempli de géants. Dieu s'approche de lui à Josué, qui jalousait d'une belle jalousie, inspiré par la vie, la communion, l'intimité, que Moïse jouissait dans la présence de Jésus dans l'Ancien Testament, de Dieu dans l'Ancien Testament, qui soupirait pour ça. Dieu s'approche de lui au début de son ministère et lui dit, « Je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. » Et maintenant, le Seigneur va lui dire, devant les géants, devant des immenses forteresses imprenables, les historiens nous disent que la ville de Jéricho, qui était la première ville qu'ils ont conquise, que la ville, les murs de la ville de Jéricho étaient tellement larges que deux chariots avec des cavaliers, pouvaient se promener pour surveiller la ville avec des patrouilles. C'était presque un boulevard sur les murs, tellement que c'était une ville imprenable. Et devant toute cette pression, devant tous ces problèmes, devant tout ce stress, la Bible nous dit que Dieu s'est approché de Josué et lui a dit, « Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas. » Et j'aime une version de la Bible qui dit, « Ne te laisse pas abattre. Ne glisse pas dans l'abattement. Tiens-toi lorsque les pensées viennent de découragement. Ne te laisse pas glisser là-dedans. Tiens-toi lorsque les mauvaises nouvelles viennent. Tiens-toi encore debout. Lorsque une mauvaise nouvelle vient à ton oreille, du travail, de l'école, de la famille, la maladie, les finances, quoi que ce soit. Lorsque quelque chose, une pensée de découragement, de culpabilité, le retour d'un vieux péché vient t'accuser, quelqu'un vient te dire une mauvaise parole, la peur de quelqu'un, l'intimidation de quelque chose, de quelqu'un à l'extérieur de ta vie vient vers toi, tu ne seras pas capable. Tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez capable. Tu regardes devant toi, comment est-ce que je vais faire pour servir Dieu? Comment est-ce que je vais faire pour éviter quelqu'un à Pogrom la semaine prochaine? Comment est-ce que je vais faire tout ça? Et le Seigneur veut s'approcher de toi et dit, ne te laisse pas abattre. Fortifie-toi et prends courage. J'ai entendu dans ma vie des messages extraordinaires sur le courage. Des prédications inspirantes qui ont imprégné ma vie, qui ont laissé une empreinte sur mon cœur. Et ce soir, je ne veux pas vous parler nécessairement du courage, mais je veux vous parler de la nature du courage. D'où vient le courage? D'où vient-il? Pourquoi certaines personnes sont courageuses pour Dieu et d'autres vivent dans la peur, la timidité ou dans l'évasion totale pour ne pas affronter leurs craintes? Pourquoi est-ce que certaines personnes sont courageuses? Je ne suis pas ici ce soir juste pour te dire « Sois courageux, sois courageux, sois courageuse, lève-toi, va de l'avant, lève-toi pour Dieu. » Non, 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 c'est pas le type de message que je veux prêcher. J'aimerais parler de la nature du courage. D'où vient le courage? Si le courage est une rivière qui descend d'une montagne, montons à la source ensemble. Allons jusqu'au lac. Allons jusqu'à la source. D'où le courage descend-il? D'où le courage jaillit-il? Pourquoi est-ce que lors de la rentrée en Canaan, c'est la prochaine étape que nous allons regarder ensemble, le prochain verset. Pourquoi est-ce que lorsqu'ils sont entrés en Canaan, des 12 espions, une histoire classique, la majorité d'entre vous connaissez, mais en même temps, on a plusieurs jeunes ici à Impact Jeunesse qui sont tout nouveaux à l'Évangile, des jeunes qui ont jamais ouvert la Bible de leur vie. Alors que le peuple a été libéré d'Égypte et qu'ils sont arrivés, qu'ils ont tourné, ils ont passé à peu près 3-4 mois dans le désert, ils sont arrivés aux portes de Canaan. Ils sont sortis d'Égypte, ont passé dans le désert du Sinaï, ils sont arrivés aux portes de Canaan et Dieu veut les faire entrer dans la terre promise. Et la Bible nous dit, l'histoire nous dit que Dieu voulait simplement qu'ils y aillent. Mais eux, ils ont dit non, on va envoyer des espions avant. Alors Dieu a dit, OK, Dieu a fait un certain compromis, si je peux m'exprimer ici ce soir avec eux. Ils ont envoyé 12 espions qui, pendant 40 jours, ont été observés la terre qu'ils allaient conquérir. Et lors de leur retour, ils ont donné un rapport. Et l'histoire, la Bible nous dit que lorsqu'ils sont revenus, la Bible nous dit que sur les 12, 10 ont donné un mauvais rapport. Donc, ils ont dit, oui, c'est vrai ce que Dieu a dit. Oui, c'est vrai que c'est une terre de prospérité. Oui, c'est vrai, c'est une terre, je sais pas si c'est pour prêcher un évangile de prospérité, inquiétez-vous pas, prenez pas mes paroles à mal interpréter. Ils ont dit, oui, c'est un endroit où coule le lait et le miel. Oui, c'est un endroit où il y a des vignes extraordinaires, mais il y a des géants. Amalek habite dans cet endroit. Il y a les fils d'Anak, des hommes qui avaient 6 doigts. L'histoire nous dit des géants, des monstres qui mangeaient des arbres, puis du métal pour le petit déjeuner qui craquait des roches pour se brosser les dents. Des monstres. Puis ils ont mis l'enfer sur les monstres. Il y a des monstres, il y a des monstres. Ils ont dit, il y a des forteresses comme on n'en a jamais vues. Puis moi, je lis ce texte-là, puis je me dis, mais ils ont passé à côté de quelque chose. Ils viennent d'être libérés de l'Égypte, du plus grand empire, la plus grande armée de leur actualité à eux, la plus grande armée de leur époque contemporaine à eux. La Bible nous dit qu'ils ont vu le cheval et son cavalier, ils ont vu Pharaon, le plus grand empereur de leur temps à eux. Ils ont vu toute son armée, sa cavalerie, ses meilleurs, la garde républicaine, la garde royale du Pharaon être complètement... Ils ont vu la mer se séparer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que devant une nation plus petite, devant des obstacles plus petits que ce que Dieu avait fait pour eux, pourquoi ont-ils douté? Et en même temps, qu'est-ce qui fait que Caleb est demeuré rempli de courage? Notez bien ceci ce soir. Regardez qu'est-ce que le texte dit à l'écran alors qu'il apparaît. Josué et Caleb, qui avaient pris part à l'exploration du pays, déchirèrent leurs vêtements. Ils dirent à toute la communauté, « Ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très, très, ce n'est pas une faute de frappe, un très, très beau pays. Si le Seigneur nous favorise, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Ne craignez pas les gens de ce pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. » What a guy! Alors que la Bible nous dit que 10 hommes ont contaminé 2 millions de personnes par un mauvais rapport. Ils ont commencé à dire, ils vont manger nos enfants. T'as pris ça où, toi? T'as-tu vu des géants qui mangeaient des petits-enfants dans leur céréales pour déjeuner? Pourquoi tu dis ça? Ou c'est leur imagination. 40 jours à voir juste l'impossible. 40 jours à se promener à Canaan et dire, oh, check-moi la grosse ville. Oh, check-moi les méchants. Oh, check-moi les chars. Oh, check-moi leur épée. Oh, check leur bouclier. Oh, allez, check leur barbe, mon gars. Check les biceps. Oh, check les en rangée. Peut-être qu'ils sont arrivés à Jéricho puis ils ont vu les chars se promener. Ils ont dit, oh, mon ami. Puis ils ont tout oublié ce que Dieu a fait pour eux. Puis ils ont focalisé sur tout ce qui ne va pas. C'était impossible de focaliser complètement sur à quel point ça va mal aller. Mais dans tout ça, ma grande question est, pourquoi Caleb, lui, n'a pas été contaminé par où? Il me semble que Caleb, de t'entendre les 10, là, hein? Chacun leur tour, ils disent leur rapport. Puis là, finalement, il y a les deux derniers, Josué et Caleb. Puis chacun dit, ah, terrible, on va tous mourir, ils vont manger nos enfants. Il y a des grosses forteresses, il y a des villes imprenables. Mais Amalek, il est là. Ah, tu sais, Amalek, là, le terrible Amalek qu'on avait déjà combattu. Puis ça a pris tellement de temps de combattre, il fallait que Moïse, eux, puis Aaron tiennent les bras de Moïse. Amalek, il habite en Canaan. On peut pas se rebattre une autre fois contre lui. Puis toute la quête, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que rendu à Caleb? Il me semble que humainement, là, Caleb l'écoute, là, ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ah, ça se peut pas. On va vraiment. Il a dû y avoir une espèce d'effet domino de contamination du premier au dixième, ça veut dire de pire en pire d'histoire. Ah, c'est vrai. Puis lui, il a pas dit que. Puis là, mais tout oublié que aussi, il était à l'affaire. Pourquoi est-ce qu'une fois arrivé à Caleb, ça l'a arrêté là? Et la Bible nous dit, ça c'est mon cœur ce soir. La Bible nous dit que Josué et Caleb, quand c'est arrivé à eux autres, puis vous autres, les gars, qu'est-ce que vous voulez dire? La Bible dit qu'ils ont pris leurs vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements. Comme une expression de déchirer leur cœur. Et le mot courage et cœur vont ensemble dans le latin. Ils ont déchiré leur cœur, ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, arrêtez, vous comprenez pas! C'est un très, très beau pays. Dieu va nous le donner. Dieu est avec nous. On va les avoir. Ils vont pas bouffer nos enfants. C'est nous qu'on va les manger. Pourquoi? D'où vient une telle source? Où est la source du courage de cet homme-là? Où est l'amont de la rivière de ce courage? J'aimerais vous présenter, ce sont peut-être une ou deux pensées ou trois, on verra le temps que nous avons. Mais j'aimerais vous présenter premièrement, il y avait dans la vie de Caleb une pacification avec Dieu. Deuxièmement, il y avait une fréquentation des bonnes personnes. Et troisièmement, il y avait une réception de la parole. Mais premièrement, juste une pacification avec Dieu. Pourquoi est-ce que les 10 autres et le peuple ont roulé dans le doute et le découragement et l'incrédulité? Ça, c'est plus que le doute, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est beaucoup plus que le doute. L'incrédulité, c'est un refus total et profond de croire que Dieu va le faire. J'aimerais vous dire, je crois de tout mon cœur que la réponse est très simple. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, le soir de la Pâque, qu'ils ont pacté leurs petits, fait leurs valises, leurs bagages, que les Égyptiens leur ont donné de l'or, de l'argent, toutes sortes de trucs. La Bible nous dit que le peuple d'Israël, les enfants de Dieu, la majorité d'entre eux, avaient caché des petits téraphims. Et les téraphims, ce n'étaient pas des grands dieux, ce n'étaient pas de grosses idoles, mais c'était de petits dieux, de petits bibelots, des petites idoles qui étaient révérées, qui étaient adorées. Et la Bible nous dit qu'ils les cachaient dans leur tente. Et plus loin, à travers les Écritures, Dieu va dire, « Je voyais mon peuple, je les ai vus. » Durant toute la sortie d'Égypte et à travers la traversée du désert, je les voyais dans leur tente, adorer, rendre un culte, mettre leur confiance. Pourquoi est-ce qu'ils rendaient un culte comme ça? Si tu vas aux Indes aujourd'hui puis tu entres dans la pièce la plus retirée d'une petite maison et tu vois 40 000 chandelles avec une espèce d'idole, avec une grosse bédaine, puis 14 bras qui font tout ça de fond de main, puis que c'est laid, puis c'est bizarre, puis il y a des yeux tout à l'envers, puis qu'ils offrent un plat de fruits, puis il y a des rats qui viennent manger ça. Pourquoi est-ce qu'ils font des choses comme ça? Parce qu'ils croient. Ils mettent leur confiance dans ces idoles. Ils mettent leur confiance que ça va les aider. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël, caché dans leur tente, adorait encore des toutes petites idoles. J'aimerais te dire ce soir la raison pour laquelle le peuple d'Israël n'a pas pu croire aux promesses de Dieu est tellement simple. Ils avaient gardé dans leur vie des toutes petites idoles. Et ils avaient quitté l'Égypte. Ils avaient quitté les grosses idoles, les gros dieux, les gros faux mauvais dieux. Mais la Bible nous dit qu'ils avaient gardé de toutes petites idoles dans leur vie. Et je prie ce soir qu'au son de mes paroles, le Saint-Esprit puisse remplir ce lieu avec une simplicité, mais une révérence extraordinaire. Qu'il puisse pointer ce soir, jeune homme, jeune fille, dans ta vie, dans ma vie. Y a-t-il quoi que ce soit ce soir, Seigneur, dans la vie de Christian Robichaud, qui est gardé, qui est chéri, mais qui n'est pas de toi? Y a-t-il une chose dans ma vie, Seigneur, que je garde, que je chéris, que je justifie. Je me dis, c'est bien, mais toi, tu dis, non, c'est mal. Ça va te détruire, Christian. Laissez-moi vous dire ce soir. Lorsque Balak et Balaam, qui étaient les ennemis d'Israël, sont arrivés plus tard, et que la Bible nous dit qu'ils ont essayé de faire de la sorcellerie contre Israël, et ce fut un échec total. Balaam, qui était un sorcier, a dit à Balak, qui était un roi ennemi d'Israël, tu ne pourras pas les avoir avec la sorcellerie. Envoie-leur des femmes. Envoie des femmes en Israël. Et la Bible nous dit que des femmes, des Moabites, sont venues. Et comme ça, les hommes ont commencé à se vautrer dans la débauche. Les jeunes hommes, plutôt que de se garder avant le mariage, se sont versés dans la débauche. Des hommes ont été trompés leurs femmes. Et ça s'est produit comme ça. Vous savez, un vieux dicton, un vieux dicton chrétien dit qu'un jour le diable s'est approché d'un homme pour le faire tomber. Et dans son échec total, il est allé chercher une femme. Je ne dis pas que les femmes sont sur la terre pour faire tomber les hommes, loin de là. Je ne dis pas que toutes les femmes sont des objets juste utilisés par l'ennemi pour faire tomber les hommes. Au contraire, il y a tellement de femmes extraordinaires, des femmes de Dieu. Mais il y a tellement une porte plus facile que les autres dans la vie des hommes. Et c'est la sensualité, la sexualité, délibérément. Mais Jésus a dit, ce qui souille l'homme n'est pas ce qui entre en lui. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de lui. Savez-vous pourquoi ces hommes-là d'Israël ont embrassé ces femmes moabites? Pas parce que ce qui était à l'extérieur, la tentation, les a attirés, puis finalement, ils ont été vers la tentation. Non. Parce que c'était déjà en eux. Au veau d'or, la Bible nous dit qu'ils ont fait un party puis se sont levés pour faire du péché. Puis Dieu les a arrêtés juste avant qu'ils aient dans la débauche. Mais c'était dans leur cœur. Lorsque les femmes moabites sont venues vers Israël, c'était juste un effet magnétique de quelque chose qui était tellement présent dans leur vie déjà, qui n'avait pas été réglé, qui n'avait pas été brûlé par l'amour et la grâce de Dieu. Quelque chose qui avait été caché, quelque chose qui n'avait pas été confessé. Si tu savais comment je me sentais lorsque quelqu'un est venu dans mon bureau, ayant détruit sa vie, me disant, Pasteur Chris, si tu savais comment je me sens détruit, puis tu lui dis, mais où est-ce que ça a commencé? How did you get into this? Comment tu as pu te rendre jusqu'à là? Puis il me disait, Pasteur, j'ai jamais été capable de confesser que j'ai regardé les femmes alentour de moi. Puis je ne dis pas que de regarder une femme, c'est mal. Mais de regarder. Comprends-tu ce que je veux dire? Une différence entre regarder ou voir et regarder une femme alentour de toi. La regarder vraiment. Elle va entrer en toi et tu vas te battre avec ça. Je n'ai jamais été capable de confesser Pasteur Chris. Alors ça l'a amené tellement loin. Et Jésus a dit, c'est pas ce qui est à l'extérieur qui suit l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur. Vous savez, quand j'étais adolescent, comme beaucoup d'adolescents, je me suis battu avec la sensualité, battu avec la convoitise sexuelle, battu avec ces choses-là. Mais moi, j'ai grandi dans une bonne famille chrétienne. Il n'y avait pas Internet à l'époque, on n'avait pas le câble à la maison, il n'y avait pas de magazine, pas correct, il n'y avait rien. Puis quand mes parents se couchaient le soir, puis je me battais avec mes péchés, j'attendais que mes parents se couchent, puis j'allais fouiller dans les magazines de mode de ma mère, puis je cherchais la sensualité, je cherchais la nudité. Puis je pouvais me prendre une pile, caché avec ma petite lumière, puis je cherchais de quoi? Il n'y avait rien chez mes parents. Je me suis mis devant la télé, il y avait 4 postes de télé, puis je pouvais zapper pendant 2 heures de temps, jusqu'à temps que je trouve un film pas correct. Parce que le péché était en moi, il n'était pas à l'extérieur. Et Jésus a dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est en lui. Et il y a une seule chose qu'il faut. C'est comme l'homme à la main sèche qui cachait sa main, et Jésus dit, étends ta main, puis je vais la guérir. Mais il fallait qu'il l'expose. Ce qui était caché devait être exposé. C'est pour ça que Jacques a dit, « Confessez donc vos péchés afin d'être guéri. » De le dire, pas de te lever devant la foule ce soir, de dire devant tout le monde, « J'ai un péché dans ma vie. » C'est pas ça. Mais de venir avec repentance devant Dieu et dire, « Seigneur, il y a quelque chose dans ma vie. » C'est peut-être même pas la sensualité, c'est peut-être quelque chose de tellement banal, c'est peut-être quelque chose qui est tellement toléré dans ton entourage, alentour de toi. Mais toi, le Seigneur, le pointe dans ta vie. Et à toi, c'est pas pour personne d'autre, c'est personnel, juste à toi, le Seigneur le touche dans ta vie. Puis dit, je veux te libérer, je veux te délivrer de ça. Et pourtant, en 2003, après une tournée en France de prédication de ministère extraordinaire, fatigué après 10 jours de prédication non-stop, je suis assis à l'aéroport de Nice, j'attends mon vol, je lis un magazine d'actualité, une revue d'actualité, et une femme vient s'asseoir en avant de moi. Je suis pasteur, je suis ministre à temps plein, J'ai deux enfants extraordinaires. J'ai une femme à la maison que je vais retrouver dans quatre avions, dans quatre vols plus tard. Je quitte Nice. J'ai fait Pau, Paris, Paris, Nice, Nice, Francfort, Francfort, Toronto, Toronto, Montréal. Quand je suis arrivé, là, j'étais gaga comme ça. Puis j'étais si fatigué. Puis une femme sexy, top modèle. Je suis convaincu que c'est une top modèle. Que ce soit en face de moi, je suis en train de donner ma revue. D'un coup, je lève mes yeux. À tout le monde m'écoute, c'est incroyable. Un eye contact, là, qui voulait dire quelque chose. Puis j'étais ça, puis... puis elle me regarde avec un gros sourire. Je vois qu'elle veut me dire bonjour. Puis là, il n'y a rien de mal à parler à une femme, là. Comprenez-moi bien. Je suis pas un fou dans ma tête qui a une qu'une femme me passe à la rue. Ah! Parle-moi pas, je veux pas être fidèle, à ma femme! Laisse-moi tranquille! Non. Inquiétez-vous pas, je suis pas comme ça. Je suis pas un ermite, là, bizarre, là, monastique. Non. Capable de parler à des femmes, tu sais. Il y avait de quoi, là. Et comme David, dans la parole de Dieu, ça dit, son cœur s'est mis à battre. Mon cœur s'est mis à battre, ça me dit, va-t'en de là. Je sais, je vais prendre ma Bible, elle va me laisser tranquille. Je roule ma Bible. À me regarde. Puis ça me dit, va-t'en. Je sors, toutes mes valises sont ouvertes, mon Walkman, toutes mes affaires. Va-t'en, mon coke. Va-t'en. Le cœur me débattait comme ça. Fait que je fais, OK, Seigneur, je m'en vais. La peur de quoi? La peur que si j'ouvre une porte, là, je vais vraiment être tenté. Il faut que je laisse cette porte fermée. Comme Dieu dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte. Fais attention, domine sur lui. Alors, je me lève, je m'en vais, je prends un petit mavalise sur roulette, puis je m'en vais dans les petites boutiques Hortax, puis je commence à regarder les petites cartes. Des cartes postales, des belles petites cartes, je vais emmener à mes enfants, tout le kit. Elle vient à côté de moi. Puis là, elle regarde le petit truc avec les cartes. Puis là, je dis, ça se peut pas. Faut que je regarde le bord, là. Elle me suit partout. Finalement, je m'en vais acheter une barre de chocolat. Elle rentre. Ça se peut pas. Fait que là, je vais voir un magasin avec des vêtements. Je regarde des cravates, tout ça. Des cravates dans les aéroports. Tu peux pas t'acheter ça. C'est des cravates à 500$. Puis là, je regarde des cravates à 500$. Là, encore. Je regarde des sacoches. Moi, je me suis. Je regarde n'importe quoi. Elle me suit. Je fais 3 ou 4 boutiques comme ça. Je dis, plaît, je marche. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, Seigneur, faut qu'elle me laisse tranquille. Puis il y a une autre voix qui me dit, tu capotes. Pas-y. Puis il y a une voix en moi qui me dit, touche pas à ça. Puis je t'inquiète pas, là. Je suis pas bizarre, là. Mais, finalement, je vois un petit comptoir. Tu sais, le comptoir d'embarquement, où les hôtesses se tiennent, puis en arrière, il y a la porte d'avion. Je vois un petit comptoir, il n'y a pas d'avion en arrière, il y a juste une grande vitre avec une belle vue sur l'océan Méditerranée. Alors, je me dis, ma porte de sortie, comme Joseph, hein. Je me pousse, mon ami. Je pars. Je m'assois sur le comptoir. Il y a ça d'espace entre moi et la vitre. Je dis, ça vient, là, vous pouvez donner un gros coup de poing en face. Puis là, je m'assois là avec ma Bible, mes chants. Oui, je te célèbre et je m'apprestais dans l'aéroport. C'est pour tranquille! Puis là, je lis ma Bible. Finalement, j'ai mon Walkman. Puis des fois, je l'enlève. Puis là, finalement, j'entends, hop, on appelle mon vol. Je me mets en ligne pour l'avion. Elle est sur mon vol. Il y a 2-3 personnes en avant de moi, puis elle me regarde. Puis là, moi, je regarde mon passeport. Puis là, ça me dit, qu'est-ce que tu vas faire? C'est assise à côté de toi. Ça veut pas dire, c'est arrivé des fois qu'il y a des gens, des femmes qui sont assises à côté de moi, puis on a parlé ensemble, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a un flirt. Tu touches pas à ça. Comme Joseph, tu fuis loin de ça. Puis là, je me dis, mais mon doux Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? C'est assise à côté de moi. Là, j'ai dérangé mon plan. Je vais me mettre en arrière. Je me mets complètement en arrière de la ligne. Fait que là, viens me voir. Non, c'est pas vrai. Je me dis, Seigneur, je vais voir, je vais rentrer dernier, mais rentrer très lentement dans l'avion. Je vais essayer de voir le plus loin possible mon chiffre. Puis s'il est assis à côté de moi, je vais aller voir l'hôtesse de l'air, puis je vais dire, madame, changez-moi de place. Il y a une femme qui me court après. Je dis, apprends ça, je suis fou. Il y a une femme qui me flirte, une femme qui veut me croiser. Moi, je veux juste être, je l'appelle, je veux rentrer chez nous. puis, mettez-moi en première classe, ça va faire l'affaire. Et puis, changez-moi de place, ou peu importe. Puis, s'il n'y a plus de place dans l'avion, à la vie, à la mort, je vais être fidèle. Seigneur, m'a manqué mon vol, m'a perdu 1000$. C'est pas grave. Seigneur, on s'en balance. Ce qui est important, c'est d'être fidèle pour Dieu. Puis, là, finalement, je rentre dans l'avion, puis elle part au deuxième étage en première classe, puis moi, je fais, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a quelques années, Christian Robichaud cherchait Et pourquoi maintenant, quand ça vient, je fuis? J'aimerais te dire quelque chose de merveilleux. Jésus m'a libéré de mon péché. Jésus m'a pardonné. J'ai confessé à quelqu'un. Il m'a aidé, on a prié ensemble, je me suis approché de Dieu, ça a été brûlé dans ma vie, ça a été pulvérisé, la grâce de Dieu. Et j'aimerais te dire, comme Jésus a dit, Satan n'a rien trouvé en moi. J'aimerais te dire aujourd'hui, ce qui souille l'homme n'est pas ce qui entre en lui. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de lui. C'est le problème en dedans qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été exposé, qui a été caché, qui ne veut pas être confessé. C'est ça qui est dangereux. Et parce que le peuple d'Israël, lâchez-moi pas ce soir, parce que le peuple d'Israël ont caché, n'ont pas confessé, chérissaient, justifiaient des trucs qui étaient contre la volonté de Dieu, que ce soit n'importe quoi ce soir que le Saint-Esprit pointe dans ta vie, lorsqu'il est venu le temps de faire confiance à Dieu, d'être rempli de courage, il n'était pas capable. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en règle avec Dieu. Tu ne peux pas embrasser les promesses de Dieu si tu n'es pas en règle avec Dieu. Tu peux pas dire, ah oui, on va se lever pour le Seigneur, ça va être extraordinaire. Oui, Seigneur, on va prendre une canard pour toi quand tu sais, dans le fond, que Dieu est en train de toucher quelque chose dans ta vie, un cancer qui pourrait te détruire. Tu peux pas être en paix, c'est impossible. Savez-vous pourquoi le peuple, à la minute qu'il y avait une épreuve dans le désert, il disait, on le sait pourquoi on a une épreuve. On sait pourquoi on n'a pas à manger. On sait pourquoi on n'a pas à boire. On le sait pourquoi on s'en va en Canaan. Parce que Dieu veut nous juger. Dieu veut nous tuer. Dieu nous a amenés dans le désert pour nous détruire. Savez-vous pourquoi qu'il pensait comme ça? Parce qu'ils étaient pas en paix. Il y avait des choses dans leur vie. Ils savaient que Dieu, un jour, jugerait le péché. Mais mon jugement est arrivé. Parce qu'ils étaient pas en règle avec Dieu. C'est pour ça. À chaque fois qu'ils doutaient de Dieu, puis qu'ils se plaignaient, puis ils disaient, oh non, on est arrivé, c'est pour mourir. Ils étaient tourmentés à cause des choses cachées dans leur vie. Mais en même temps, il y avait un homme qui s'appelait Caleb. Et moi, je vais te dire pourquoi. Cet homme-là était rempli de courage. Moi, je vais te dire pourquoi cet homme-là pouvait croire aux promesses de Dieu. Moi, je vais te dire pourquoi cet homme-là pouvait s'accrocher aux promesses de Dieu. Cet homme-là était en paix avec Dieu. Cet homme-là était en règle avec Dieu. Cet homme-là n'était pas parfait, mais il n'avait rien caché à Dieu. Il avait exposé, il avait laissé Dieu pulvériser dans sa vie ce qui pouvait le détruire. J'aimerais t'inviter ce soir. Dieu veut faire de toi un jeune homme. Une jeune femme remplie de courage, avec un cœur de conquête, courageuse, courageux pour lui. Mais la première étape pour recevoir et croire aux promesses de Dieu, pour se lever avec courage et suivre Dieu, c'est d'être en paix avec Dieu, d'être en règle avec Dieu, de rien avoir de caché avec Dieu. Tu sais, ce matin, je me lève, moi le matin, j'ai beaucoup de difficultés avec la joie. Quand je me lève le matin, je ne sais pas pourquoi, même si j'aime le Seigneur tout mon cœur. Le matin, c'est dur. Je suis un grognon, tout ça. Puis le matin, je vois tout ce qui ne va pas dans la maison. Tout ce qui n'est pas parfait. Puis j'ai de la difficulté avec ça. Puis ce matin, je me lève, puis je lance 2-3 trucs à ma femme. Hey, ça, c'est pas fait. Mais pourquoi ça ne s'est pas réglé? Puis ça, mais écoute, moi, j'ai une grosse semaine. Là. Ça se peut être fait. Là. Puis ce matin, je vais être bien franc avec vous. Hey, là, j'ai pas de pantalon. Là. J'ai pas de pantalon à mettre. Tu travaillais pas, toi, hier? Moi, je travaillais. Puis là, dans le fond, c'est pas vrai, à travailler. Puis là, finalement, ça reste comme ça. Là, on se parle comme ça. On rentre dans l'auto. Puis là, je suis correct, finalement. Je mets des louanges. On va porter les enfants à la garderie, à l'école, tout ça. Puis je commence à conduire l'auto. Je dis, on a une belle journée, chérie. Puis elle est comme ça. Puis là, je lui dis, ben ouais, t'es-tu correct? Ouais, je suis correct. Je dis, t'es-tu correct? T'es-tu malade? T'as-tu quelque chose? Hey, la vie est belle! Mais elle est restée sur qu'est-ce qui n'a pas été réglé. Comprends-tu? Puis là, dans l'auto, il y a eu des excuses. Elle s'est excusée de ne pas avoir fait mes pantalons. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me suis excusé de mettre plainte pour des niaiseries. Et on a fait la paix ensemble. 30 secondes après, c'était la joie. On chantait, on se parlait, gros sourire, on se tenait par la main, conduisant l'auto. Même plus besoin de shifter mon auto, je shiftais tout seul. Ah, la vie est belle. Quand, des fois, on veut les promesses de Dieu. On veut que Dieu nous bénisse, on veut que Dieu nous touche. Mais Dieu, il n'est pas en paix avec toi. Puis là, toi, ah, Seigneur, remplis-moi de courage, je veux m'élever pour toi. Puis Dieu est là. Il y a de quoi qui n'est pas réglé dans ta vie. La première chose pour devenir courageux pour Dieu, c'est d'être en paix avec Dieu. Caleb était un homme en règle avec Dieu. Si tu savais ce que tu manques, si tu n'es pas en règle avec Dieu ce soir, si tu savais ce à côté de quoi tu passes ce soir, si tu n'es pas en paix avec Dieu, si tu résistes à Dieu. Puis des fois, là, c'est même pas une question de péché. Des fois, c'est une question de décision de vie. Tu sais que tu dois aller vers par là, mais dans le fond, tu t'en vas par là. Tu sais que tu devrais conduire ta vie par là, mais tu la conduis par là. Puis tu résistes à la volonté de Dieu. Tout le courage coule à temps comme de l'eau. Parce que tu n'es pas en paix avec Dieu. Première étape, c'est d'être en paix avec Dieu. Je termine avec cette pensée ce soir. La deuxième chose, tellement importante. Premièrement, c'est une pacification avec Dieu. Et deuxièmement, fréquentation de bonnes personnes. Je termine dans un instant, mais je vous lance cette pensée-là en terminant ce soir. Une pensée simple, une pensée concrète, une pensée terre à terre et facile à appliquer à nos vies. La Bible dit que 10 personnes, 10, c'est pas beaucoup, ont contaminé 2 millions de personnes. C'est grave, c'est vraiment grave ce qui est arrivé. Toute une génération n'a pas pu entrer en Canaan parce qu'ils ont été contaminés du doute, de l'incrédulité puis du mauvais rapport de 10 personnes. Il y a un endroit où, dans la loi de Dieu, Dieu a dit ceci. Lorsque l'armée va aller à la guerre, l'armée d'Israël, le peuple de Dieu va avancer ensemble pour toucher la société pour Dieu, version Christian Robichaud moderne, mais lorsque l'Impact Genèse va avancer ensemble, Dieu dit, les sacrificateurs vont venir se tenir devant l'armée avant qu'ils aillent à la guerre. Ils vont lire une portion de la loi qui dit, si quelqu'un a peur qu'il retourne à la maison, qu'il n'est pas à la guerre, par crainte qu'il contamine, qu'il décourage ceux qui sont remplis de courage. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire, 10 soldats ensemble, en train de déguiser leur épée, de huiler leur bouclier, en train de se préparer, d'attacher leur casque. Ah, les gars, on va y aller. Seigneur va être avec nous. Puis il y en a un qui est là. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le Seigneur va être là. En tout cas, là, moi, là, j'ai pas goût d'en manger un coup en arrière de la tête, là. J'ai jamais vu ma tête partir. Ça me tente pas que ça m'arrive aujourd'hui. Puis là, oups, ça commence à se répandre, ça. La peur, c'est contagieux. Le courage est contagieux, mais la peur est contagieuse. J'aimerais te dire ceci ce soir. Fais attention avec qui tu tiens. Tiens-toi avec des courageux. Tiens-toi avec des gens qui aiment Dieu. Tiens-toi avec des jeunes hommes, choisis bien tes amis. Je ne te dis pas d'aller voir quelqu'un et de leur dire, je ne me tiendrai pas avec toi, puis tu es rempli de peur et d'incrédulité. Moi, je m'en vais vers des chrétiens remplis de courage. Non, ce n'est pas ça. C'est des choix de vie qui se font avec beaucoup de sagesse. C'est des choix de vie qui se font avec beaucoup d'amour, de douceur, de compassion quand même. Mais tiens-toi avec des courageux. Tiens-toi avec des jeunes qui disent, hey, moi, là, j'en invite 4 amis vendredi. Moi, là, je prie pour mes amis, je vais faire une journée de jeûne cette semaine, je vais jeûner pour inviter quelqu'un vendredi prochain au concert, je vais me tenir pour le Seigneur, tu vas voir. Là. Tiens-toi avec du monde comme ça. Tiens-toi avec du monde qui dit, hey, qu'est-ce qu'on fait à soir, sortir du cinéma? Non, on va aller prier. Hang out with people like that. Come on! Tiens-toi avec du monde qui veut aller plus loin pour Dieu. Tu vas devenir comme eux. Choisis bien tes amis. Les fréquentations vont faire de toi quelqu'un de courageux. Je suis convaincu que quand les 12 princes d'Israël se sont réunis et se sont mis 2 par 2 pour aller en Canaan pendant 40 jours, puis ont pris leur sac, des vivres et tout ça, la nourriture, je suis convaincu que Josué et Caleb se cherchaient dans la foule. « Hey! Moi, pis toi! Ah, je suis désolé, j'ai déjà un partenaire. Oublie-moi pas! Non, je suis désolé, je suis en équipe avec Caleb. La Bible ne dit pas vraiment, j'ai pas trouvé de verset qui dise littéralement qu'ils étaient en équipe ensemble, mais moi, j'en suis profondément convaincu. C'est une petite conviction personnelle. OK, on la discute pas. Je suis convaincu que Josué et Caleb se sont dit, hey, on y va ensemble. Ah, let's go. Puis ils sont partis. Puis quand ils ont vu la forteresse, mais check la forteresse. J'ai assez hâte de la voir tomber. Il y a tellement de pierres. Tout le monde va mourir. On n'aura rien à faire. Ça va être extraordinaire. Dieu va tomber ça, mon ami. Tu verras pas ça. Puis quand ils ont vu les Goliaths, les géants, là, de la montagne d'Anak, je suis sûr qu'ils en bavaient. Ah, mais j'ai hâte. J'ai hâte d'y rentrer mon épée dans le ventre. Mais je suis sûr que ça va me rentrer jusqu'au coude. Ah, il va tout de suite. Attends, non! On est juste ici pour espérer. Ah, ouais, je vais y aller. Ah, ouais, viens. Non. Non, pas tout de suite. On est juste ici pour espérer. Puis quand ils ont vu telle affaire, puis quand ils ont vu des soldats passer, puis quand ils ont vu toutes les impossibilités, quand ils ont vu l'armée d'Amalek, puis bien organisée avec des stratégies, puis ils ont été voir les camps d'entraînement avec les gars qui faisaient les pompes, tout le kit, puis wow. Puis les gyms d'entraînement de tous les Cananéens. Puis ils ont dit, oh man, j'ai sorti de leur voler leur gym, puis leur poêle-terre, ça va être en tour de s'entraîner là-dedans. Je te garantis qu'ils pensaient positif. Tiens-toi avec quelqu'un comme ça. Tiens-toi avec quelqu'un de courageux, tu vas devenir courageux. Tiens-toi avec quelqu'un qui veut faire quelque chose pour Dieu, tu vas faire quelque chose pour Dieu. Tiens-toi avec quelqu'un qui a une vie de prière, tu vas avoir une vie de prière. Tiens-toi avec quelqu'un qui a une vie de sainteté, tu vas avoir une vie de sainteté. Et si tu veux exercer un ministère, va vers quelqu'un qui est peureux et déverse ton courage dans sa vie. Impart. Déverse ton courage dans la vie de quelqu'un. Faut pas juste avoir une vie chrétienne centrée sur toi-même. Essaie de trouver quelqu'un autour de toi qui aura besoin d'une petite dose de courage. Puis tu viens, on va y aller ensemble. Ah ouais! Cette semaine, je te mets au défi, t'invites quelqu'un vendredi prochain à Jeunesse. Moi, là, je dis, mais c'est pas mon genre. Moi, là, parler de Jésus, c'est pas mes enfants. Comment? T'es capable? On va te montrer comment? Ah oui, on fait comme si j'étais pas chrétien. OK, on va te montrer. Comprends-tu ce que je veux dire? Même aider quelqu'un. Cet été, on était en vacances, mon épouse et moi, puis avec les enfants. Puis moi, ça fait des années que j'ai peur de l'océan. J'en ai déjà parlé ici. L'océan, c'est ma terreur, les requins, tout ça. Puis j'ai déjà raconté une histoire ici où j'étais allé me baigner à l'endroit stratégique de toutes les places dans le monde entier où j'aurais pu me baigner. Je me suis baigné à une place où il y a un requin de 20 pieds de long qui a essayé de bouffer un chien. Toute une histoire de incroyable. Moi, je me baignais là-dedans. Je savais pas finalement quelqu'un m'a dit, tu serais sorti de l'eau, il y a un requin des environs. Puis finalement, on est retourné là cet été en vacances, puis je me baignais là, tout ça. Et ma peur a contaminé ma femme, qui, elle, était courageuse, se baignait, tout ça. Puis là, cet été, j'étais dans l'eau. Viens-t'en, chérie! Puis ma femme était là. Viens, viens! Puis finalement, j'ai réussi à la convaincre. Il y avait des vagues qui tombaient sur nous. Puis je convainc ma femme de venir. Ma femme est très sécure, tu sais. Et puis, dans différents aspects de nos vies, j'espère qu'elle va m'aimer quand même après la réunion ce soir. On en a déjà parlé ensemble. J'ai pas demandé la permission de raconter ça, mais elle-même. Et puis, finalement, ma femme vient dans l'eau. Tu sais, OK, viens, je l'attire. Tu sais, tu peux influencer quelqu'un à devenir courageux. Je l'attire, je dis, viens dans l'eau, viens avec moi. Puis là, finalement, elle descend, elle voit, OK, je vais y aller. Paclaw! Il y a une vague qui la ramasse. Puis là, je dis, quand la vague arrive, on plonge en dessous de la vague, on va être super carré. Il y avait des grosses vagues là, qui tombaient sur nous, là, des vagues, là. Ah non, mais vraiment des vagues. Puis là, elle rentre dans l'eau, elle était juste à côté de moi. Puis je dis, quand la... Oups! Paclaw! Je vois la vague la ramasser. Puis je vois des pattes. Avec du sable partout dans le nez. Là, ça, là, moi, c'est fini. Là, ça va. Oh, comment plier? Viens. Toute la semaine de vacances, c'était comme ça. Finalement, un mois plus tard, on retourne à New York. Lorsque j'ai été prêché à la retraite jeunesse de Times Square Church. Et le samedi après-midi, j'étais en plein moment de prière, puis l'épouse du pasteur, Patrick Pierre, là-bas, frappe à la porte de ma chambre au camp. Toc, toc, toc. Puis j'ouvre la porte, je dis, oui, elle dit, je m'excuse, mais elle dit, Christian, tu devrais vraiment venir voir ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, un truc, une espèce d'activité qui s'appelle arbre en arbre. Puis tu montes à peu près plus haut que l'église de Nouvelle Vie, des poteaux, des poulies, toutes sortes de trucs avec des câbles. Puis ta femme est en train de se jeter en bas de ça. Quoi? Là, je suis pas en cours, je dis pas ma femme, elle se trompe, c'est quelqu'un d'autre. Puis j'arrive là, qui c'est que je vois? Ma femme, elle monte comme un comme Mario Dutille montait l'Everest, mais un peu mieux que Mario. Puis là, elle montait, là, plaque des câbles, là, elle montait sur un poteau, là, super haut. Le cœur me débattait juste à la voir, je dis, ben là, elle fait meilleur que moi. Là, elle montait jusqu'à moi, elle arrive sur un truc, le poteau s'en va de main, tout ça. Puis il y a un câble qu'elle jette en bas de ça, c'est un câble, puis... Puis là, Rosa, l'épouse du pasteur, elle dit, hey, je l'ai faite, elle dit, moi, le cœur me débattait. Puis là, ma femme, là, je dis, ah, c'est quoi? Pouf, je la vois, elle se pitch en bas. Laisse. Wow! Puis là, les jeunes, ils vont, hey, go, pasteur, vas-y. Ah, oh, moi, je suis en prière. Je marche mal. Ça reste comme ça. Après la fin de semaine, on s'en revient ensemble. Je lui dis, chérie, comment t'as fait pour faire ça? À un moment donné, une image tellement puissante. Elle dit, Christian, ça fait quelques années qu'on les connaît, c'est des amis pour nous. Elle dit, Rosa, c'est une jeune femme très courageuse. Bungee, parachute, toutes sortes de trucs. Pff, elle se lance n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Très courageuse. Puis elle dit, juste être avec elle. Juste, elle me pousse, elle me dit, allez, allez. Elle dit, juste me tenir avec elle, la côtoyer. Il s'envoie des mails des fois, tout ça. Elle dit, ça m'a donné le courage. J'aimerais dire ce soir, choisis tes amis. Trouve-toi des amis, pas qui finissent seulement qui font du bungee, mais trouve-toi des amis qui ont un courage spirituel. Tiens-toi avec des courageux. Puis si tu es quelqu'un de courageux, prends quelqu'un qui est faible dans son courage. Prends-le sous ton aile, puis aide-le. Je termine ce soir, j'ai invité les musiciens à s'approcher. Je vais faire un appel très précis ce soir. Je ne cherche pas nécessairement à faire un appel parce que beaucoup de monde va avancer. Mais j'avais dans mon cœur cet après-midi de faire un appel précis. faire un appel pour quelque chose de bien, bien, bien précis ce soir. Ce soir, je veux faire un appel pour ceux qui ont besoin de courage, ceux qui ont des peurs dans leur vie, ceux qui ont de la timidité dans leur vie. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'était un homme de grand courage, comme je l'ai dit au début de la réunion. Jeune homme, jeune fille, ce soir, le Seigneur ne veut pas pour toi de la timidité, de la gêne, de la peur. Le Seigneur a pour toi une vie de courage, une vie de risque pour Dieu, une vie d'avancement, une vie qui va de l'avant pour le Seigneur, une vie de foi, une vie qui croit en Dieu. Et ce soir, je demande à tout le monde de pencher la tête, de fermer les yeux. S'il y a quelqu'un qui est ici ce soir, qui veut dire, Pasteur Chris, dans ma vie, il y a une chose qui n'est pas en règle avec Dieu. J'aimerais te dire ce soir, sans confesser, il est impossible. La Bible dit, confessez donc vos péchés afin d'être guéris. Je crois de tout mon cœur que ce qui va nous guérir de nos peurs, ce qui va nous guérir de nos doutes, ce qui va nous guérir de notre incrédulité, de notre stérilité spirituelle, c'est de confesser à Dieu, de dire, Seigneur, j'ai eu tort et tu avais raison. Seigneur, j'ai justifié, j'ai excusé, j'ai expliqué, mais c'est toi qui avais raison. Seigneur, je m'humilie devant toi. Écoutez-moi bien ce soir, même si vous avez la tête penchée, écoutez-moi très, très, très attentivement. Il y a une seule chose que Dieu demande à l'homme, c'est de reconnaître. Tout ce que Dieu te demande, c'est de reconnaître. Parfois, on veut changer le monde pour Dieu, mais tout ce que Dieu nous demande, c'est de reconnaître notre besoin de lui, de développer notre dépendance de lui. Tout ce que Dieu demande à l'homme, c'est lui qui va faire tout le reste pour toi, c'est lui qui va opérer tous les autres miracles pour toi. Tout ce que Dieu demande à l'homme, c'est de s'humilier. Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu oppose les orgueilleux. Si tu es ici ce soir et ta vie n'est pas en règle avec Dieu, et tu aimerais répondre ce soir et t'humilier devant Dieu, reconnaître ton besoin de Dieu, et dire, Pasteur Chris, c'est vrai, il y a une chose dans ma vie qui n'est pas en règle avec Dieu. Il y a une chose dans ma vie que j'ai justifiée, mais ce soir, je veux reconnaître que j'ai eu tort. Ce soir, je veux m'humilier devant Dieu, je veux être en paix avec Dieu. Je veux cette pacification avec Dieu. Ce soir, je veux que ma vie soit en règle avec Dieu. Sais-tu quoi? Ça peut être quelque chose de tellement simple. Ça peut être quelque chose de tellement sans l'onction de Dieu, sans le doigt de Dieu sur ton cœur. Il serait impossible de le voir. C'est pour ça que le psalmiste a dit, « Sonde-moi, ô Dieu, parce que c'est mieux que Dieu lui-même nous sonde. Si on se sonde nous-mêmes, on va tellement manquer. On va tellement passer à côté. » Il faut que ce soit Dieu qui nous sonde. Tu veux simplement dire ce soir, Pasteur Christian, Dieu a sondé mon cœur alors que tu parlais. Dieu a mis son doigt sur une chose dans ma vie. Je veux être en règle avec Dieu. J'aimerais que tu puisses lever la main tout de suite ce soir, sans hésiter. Plusieurs lèvent la main. Je veux que ma vie soit en règle avec Dieu. Je veux que ma vie soit en paix avec Dieu. Et si tu as levé la main ce soir, je vais te demander de t'humilier devant Dieu. Je te demandais de venir ici à l'avant. Ça ne veut pas dire que tu es un gros, mauvais, pécheur, méchant, digne d'être condamné à mort. Non, 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 non. Ça veut dire que tu es franc avec Dieu. Ça veut dire que tu es humble devant Dieu. Ça veut dire que tu reconnais, que tu courbes devant Dieu. Et tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi ce soir. Je reconnais qu'il y a une chose dans ma vie qui m'empêche d'être en paix avec toi. Il y a une chose dans ma vie, Seigneur. Et je reconnais que ce qui souille l'homme n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui est en lui. Et Seigneur, il y a quelque chose en moi qui pourrait me détruire. Il y a quelque chose en moi qui pourrait devenir une petite cellule, pourrait devenir un cancer généralisé et détruire ma vie. Le week-end dernier, j'ai vu un jeune homme qui a vécu un deuil terrible alors que sa mère attrapé un cancer de la peau et à l'intérieur de 3 mois, elle est décédée. Une petite cellule cancéreuse a détruit toute sa vie au complet. Et tu veux dire, Seigneur, viens pulvériser cette cellule. Seigneur, viens brûler cette chose dans ma vie. Et je veux faire un dernier appel pour certaines personnes ce soir. Au niveau de l'amitié, peut-être que tu es ici ce soir et que tes amitiés influencent mal ta vie. Tes amitiés t'empêchent de développer un courage pour Dieu. Tes amitiés t'ont freiné dans ta marche avec Dieu. Tes amitiés t'ont ralenti dans ta marche. Tes amitiés ont alourdi ton pèlerinage avec Dieu. Et tu veux dire ce soir, Pasteur Chris, je reconnais qu'il y a des amis au cégep, à l'université, à mon travail, dans mon entourage. Il y a des gens qui m'éloignent de Dieu. J'aimerais que tu puisses lever la main ce soir. Que tu puisses lever la main sans hésiter.